Vous écoutez France Culture, il est 9h.
Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Mobilisation monstre de la génération Parkland aux États-Unis. La jeunesse traumatisée par les tueries de masse dans les lycées américains réunissait hier à Washington plus de 800 000 personnes pour dire stop à la libre circulation des armes à feu. 7 000 civils et combattants rebelles évacués de la Ghouta orientale en Syrie. C'est le deuxième convoi cette semaine encadré par le régime de Damas. Dans ce journal, nous ferons aussi un point sur l'enquête deux jours après le triple passage à l'acte terroriste de Radouane Lagdim dans l'Aude. Nous entendrons également le président de l'université de Montpellier après la démission du doyen de la fac de droit. Jeudi, il avait laissé entrer dans sa faculté un groupe de militants d'extrême droite armés pour déloger violemment des étudiants grévistes. Des allées noires de monde et un silence hanté par la mort de centaines d'innocents. 800 000 participants hier au Bamo à Washington pour cette marche historique contre la libre circulation des armes à feu aux États-Unis. Un mois donc après la tuerie du lycée de Parkland en Floride et ses 17 morts. C'est toute une génération d'adolescents américains qui s'engagent là où celles d'avant n'ont pas pu stopper la répétition des massacres. Grégory Phillips.
Pendant plusieurs minutes, Emma Gonzalez, devenue l'une des porte-parole des survivants de Parkland, impose à l'immense foule qui se presse sur Pennsylvania Avenue un très long silence.
Depuis que je suis montée sur cette scène, il s'est passé 6 minutes et 20 secondes. Le tireur vient de cesser ses coups de feu et d'abandonner son fusil automatique. Battez-vous pour vos vies avant que quelqu'un d'autre n'ait à le faire pour vous.
Au cœur de la capitale fédérale, ils sont donc venus par dizaines de milliers, des lycéens, des étudiants, mais aussi leurs parents ou leurs grands-parents. Allison et Elena, la mère et la fille, sont venues toutes les deux pour dire qu'il est temps d'avoir des lois plus strictes sur le contrôle des armes.
Nous avons eu assez. C'est fini. On va changer ça.
Est-ce que vous avez l'impression de vivre quelque chose d'historique, là ?
J'espère.
À la fin de la manifestation, des volontaires sont là pour dire aux jeunes de penser à s'inscrire sur les listes électorales, car les élections de mi-mandat approchent en novembre, et si ce mouvement veut perdurer, il devra se traduire aussi dans les urnes.
Grégory Phillips à Washington qui signe aussi, je vous le rappelle, cette semaine, le magazine de la rédaction de France Culture, un mois après la tuerie de Parkland, c'est à écouter ou à réécouter sur franceculture.fr. Des autobus en file indienne qui quittent un à un la Ghouta dévastée. À bord, des milliers d'habitants syriens qui fuient cette région de la Ghouta orientale aux portes de Damas, région où les rebelles sont acculés dans leur dernier réduit. Désormais, la Ghouta orientale contrôlée à plus de 90% par les forces loyales à Bachar el-Assad, lesquelles organisent donc depuis hier soir, en accord avec les rebelles, la deuxième opération massive d'évacuation de la population. Les précisions de notre correspondant dans la région, Omar Ouaman.
L'évacuation a débuté à la tombée de la nuit après plusieurs heures de retard en raison des opérations de déminage du couloir établi par l'armée syrienne. Elle se poursuivra aujourd'hui et devrait concerner à terme près de 7000 personnes, des combattants mais aussi des civils, en général leurs familles, comme le stipule l'accord conclu entre d'un côté le groupe rebelle Feylak al-Rahman qui contrôle notamment les localités de Zamalka et de Harbin et de l'autre la Russie, garante de la sécurité du convoi de bus qui devrait rejoindre la province rebelle d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, la dernière qui échappe au pouvoir de Damas. C'est une nouvelle victoire pour le régime de Bachar el-Assad après le transfert il y a 3 jours de plus de 4000 personnes, dont 1400 hommes armés de la ville d'Arasta vers cette même région d'Idlib. Mais la reconquête ne sera totale qu'après la chute de Douma, la grande ville tenue d'une main de fer par les salafistes de Jaïch al-Islam. Les négociations sont en cours et pourraient aboutir dans les prochains jours.
En bref, en Italie, la future coalition de gouvernement qui doit réunir le mouvement 5 étoiles et l'alliance droite-extrême-droite scelle un accord. Hier, les nouveaux partenaires ont commencé à se partager les postes clés de l'État italien. La présidence de la Chambre des députés pour 5 étoiles, la présidence du Sénat pour une proche de Silvio Berlusconi. La prochaine étape, ce sera l'annonce de la composition du nouveau gouvernement. Au surlendemain de la triple attaque terroriste qui a fait, rappelons-le, 4 morts et 15 blessés à Carcassonne et à Trèbes dans l'Aude, 2 personnes sont toujours en garde à vue ce matin. La compagne du terroriste Radouane Lagdim, elle est âgée de 18 ans, et un ami du terroriste, un mineur, lui, de 17 ans. Leurs gardes à vue ont été prolongées au-delà des 48 heures, c'est possible pour les affaires de terrorisme, et les enquêteurs cherchent toujours à vérifier s'ils ont été les complices ou non de Radouane Lagdim. Sophie Parmentier.
Cette question de la complicité est toujours celle qui s'impose en cas d'attentat, même si le terroriste a tiré seul sur ses cibles. Les enquêteurs veulent savoir qui a fourni l'arme de petit calibre 7,65 avec laquelle Radouane Lagdim a semé la terreur. Où se l'est-il procuré? Où et quand a-t-il acheté le couteau de chasse retrouvé sur lui dans le supermarché de Trèbes, dans le Super U? Les enquêteurs ont aussi découvert, juste après l'assaut, 3 engins explosifs de confection artisanale. Et puisque les policiers antiterroristes veulent aussi et surtout comprendre, c'est ce qui a déclenché le passage à l'acte de ce petit délinquant franco-marocain fiché S depuis 2014, suivi pour sa radicalisation depuis 2016, sans que ne soit détecté le moindre signe précurseur d'une attaque imminente. A-t-il été suffisamment malin pour duper les hommes du renseignement avec cette technique de dissimulation qu'on appelle la taquilla? En tout cas, les enquêteurs ont retrouvé à son domicile des notes manuscrites qui faisaient allusion à l'État islamique, des notes qui peuvent aussi faire penser à un testament, selon une source judiciaire. Radouane Lagdim semblait donc s'être préparé à mourir en martyr au nom de Daesh sans que personne ne s'en aperçoive.
J'ajoute qu'Emmanuel Macron a annoncé hier qu'un hommage national sera bien rendu au gendarme Arnaud Beltrame, mort en héros vendredi après avoir pris la place d'un otage entre les mains de Redouane Lagdim, le président de la République, qui convoque également cette semaine à l'Élysée tous les responsables des services de l'État en charge de la surveillance des personnes radicalisées. L'actualité en France, c'est aussi la démission à Montpellier du doyen de la faculté de droit. Philippe Pétel était accusé d'avoir ouvert les portes de sa fac jeudi à un groupuscule d'extrême droite. Une dizaine d'hommes armés et cagoulés avaient attaqué des étudiants grévistes qui occupaient un amphithéâtre. 2 enquêtes pénales et administratives ont été ouvertes. La seconde à l'initiative de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Et la première, plainte pénale, donc, après ce dépôt de plainte d'étudiants blessés, mais aussi du président de l'université montpelliéraine, Philippe Auger, pour qui cette affaire ne s'arrête pas avec la démission du doyen Pétel.
Moi, j'attends de cette enquête que les points qui aujourd'hui sont, pourrait-on dire, synonymes de troubles, de doutes, et bien que ces points-là soient levés. Il y a sur la vidéo des individus cagoulés. Qui sont ces individus cagoulés? Comment sont-ils rentrés là avec des morceaux de bois? Et toute une série de questions aujourd'hui, qui sont des questions, certes, que se pose le président de l'université, mais également que se pose n'importe quel usager de la faculté ou n'importe quel citoyen. Donc j'attends de l'enquête, finalement, d'avoir les tenants et les aboutissants de ces éléments. Enquête, d'une part, que j'ai souhaité sur le plan policier ou judiciaire, dans le sens où j'ai posé plainte dans ce cas-là, mais également la ministre Frédérique Vidal fait descendre lundi une inspection, l'inspection générale, pour que du côté donc de l'administration, il y ait également une enquête qui soit menée. Donc j'attends qu'elle établisse clairement qui a agi, comment les gens ont été agis, et qu'elle porte les responsabilités donc sur les auteurs de ces faits.
Philippe Auger, le président de l'Université de Montpellier, joint par Eva Jednak. Quand la radio-télévision publique à présent essayait de passer mai 68 sous silence, retour forcément critique sur l'histoire de l'ORTF, la maison de la radio, notre maison, accueille depuis jeudi une exposition gratuite sur la manière dont la révolte il y a 50 ans a été racontée ou bien tue, mais aussi comment elle a ébranlé l'institution, comme elle l'a fait avec toute la société française de l'époque gaulienne. Jacqueline Pétros nous en dit plus.
68 a aussi fait bouger le paysage audiovisuel. L'ORTF, alors sous contrôle, engage pendant les événements la confrontation avec le pouvoir. Archives inédites de l'INA, slogans, témoignages racontent cette émancipation difficile. Christian Delporte, historien et commissaire de l'exposition.
Quand il y avait des images de manifestations, d'abord c'était uniquement des images de derrière les CRS, toujours muettes, avec un commentaire off du journaliste. Et finalement, ça n'a pas été le triomphe de la télévision, c'était le triomphe de la radio. Puisque à la radio, là, on avait des reporters qui faisaient vivre en direct les événements de telle façon d'ailleurs que le gouvernement a coupé les transmissions parce que les manifestants utilisaient la radio pour se donner des rendez-vous. Et puis au début, en tout cas des événements, l'opinion était favorable aux manifestants.
Pour faire tomber les murs du silence, les journalistes manifestent une semaine entière. Une centaine sera licenciée. Mais il y a déjà ce lien avec les auditeurs, le courrier retrouvé par Camille Duchemin, la scénographe.
On a découvert vraiment des trésors de courriers d'auditeurs qui sont géniaux, qui sont contre la grève, pour la grève. Cette maison a une longue histoire très très riche.
Trois étapes sonores et visuelles pour revivre cette phase désormais historique.
C'est une véritable bataille qui va durer 4 heures.
Exposition à voir donc dans le hall de la Maison de la Radio. Passez nous voir à l'occasion. Côté météo, la matinée est printanière sur une large moitié est du pays, mais les pluies reviennent par l'ouest dans l'après-midi. Température ce matin entre 5 degrés en Auvergne, 6 en Alsace et jusqu'à 13 sur la Côte d'Azur. Les maximales devraient s'échelonner entre 10 et 15 degrés.